Je suis l'ancien, je suis cette terre. Quand à perte de vue s'étendait la forêt, les rois de France, les descendants du Capet voulurent lui adjoindre un grand chêne de pierre en signe de leur pouvoir.
Pourtant, c'est Charles V qui t'a fait élever, et cela ne remonte qu'au XIVe siècle.
Je parle au nom de tout le château. Regarde au nord et à l'est. Dans cette grande enceinte se tenait le premier château que Louis VII commença à construire il y a plus de 700 ans. À présent, il a disparu. Mais je garde encore le souvenir de nos longs entretiens silencieux. C'est avec lui que débute ici l'histoire. Les derniers druides ont disparu. Le roi et ses chevaliers viennent alors chasser le gibier et les loups. Et avec eux s'installent de petits groupes de paysans et de moines, premiers colons sous les premières tours. Je pense qu'il m'est inutile de te rappeler ma longue histoire. Tu en sais presque autant que moi, ménestrel. Puisses-tu au moins la raconter aux autres hommes, afin que l'on se souvienne de mes pierres et que la pluie et l'indifférence n'aient pas raison de mes murs, comme ils n'ont déjà détruit tant de mes congénères.
Ne crains rien, château royal, je serai ton témoin. Ah, mais ils sont déjà tous là. Hola, gentes-dames et gentilshommes. Je sens bien que vous êtes là d'entendre toujours les mêmes récits d'amour et de chevalerie. Je vous propose une autre histoire, celle d'un vieux château qui s'est perdu dans la banlieue parisienne. Voyons, par où commencer? Oui, voilà. Imaginez cette forêt immense qui recouvre toute la région et dont il ne reste aujourd'hui que quelques petits bois épars. Maintenant, regardez bien au sommet des arbres. Vous apercevrez peut-être un petit filet de fumée blanche dans le lointain. Vous approchez et vous êtes sans doute surpris de voir apparaître une grande ferme fortifiée avec une grosse tour carrée et une petite chapelle. C'est le premier château, celui qu'a fait bâtir Louis VII. Il est en pierre, mais encore beaucoup de dépendances sont en bois et en torchis. C'est là qu'ont vécu les premiers rois capétiens, et parmi eux les plus illustres, comme Philippe Auguste ou encore Saint-Louis. Ah, voilà qui vous rappelle quelques petits souvenirs d'enfance. Vous le voyez déjà rendant la justice sous un chêne. Tenez, le voilà en 1248, alors qu'il sort de l'ancienne chapelle. La messe vient de se terminer et la cour est inquiète pour le roi. Alors qu'il était malade, il a fait vœu de partir en croisade s'il guérissait. C'en est fini de sa maladie et le roi Louis IX n'est pas homme à renier sa parole.
Le roi, souviens-toi que quand tu as reçu la croix en faisant inconsidérément et brusquement un vœu si difficile à accomplir, tu étais malade et pour dire la vérité, peu sain d'esprit. En effet, le sentillon monté au cerveau, tu n'étais pas maître de toi. Ainsi, les paroles prononcées en ce moment étaient dépourvues de vérité et de toute autorité. Le Seigneur Pape nous accordera bénévolement dispense, connaissant les besoins du royaume et la faiblesse de ton corps.
Taisez-vous, on réglera ces affaires les unes après les autres. J'ai convoqué le prévôt de Paris pour clarifier le cas du clerc coupable d'avoir tué 3 sergents du Châtelet. Prévôt, je vous écoute.
Ces 3 sergents allaient dans les rues pour voler les passants. Ils rencontrèrent le clerc que vous visitiez et lui enlevèrent ses habits. Le clerc rentra chez lui en simple chemise, prit son arbalète et fit porter son fauchon par un enfant. Quand il aperçut les larrons, il leur cria qu'il les tuerait. Il tendit son arbalète, tira et atteignit l'un d'entre eux en plein cœur, tandis que les 2 autres prenaient la fuite. Le clerc prit le fauchon que portait l'enfant et se mit à leur poursuite. Le premier pillard, ayant voulu passer dans un jardin à travers la haie, Le clerc le frappa du fauchon et lui trancha la jambe. Il poursuivit le second qui se réfugia dans une maison étrangère où les gens veillaient encore et lui frappa si fort à la tête avec son fauchon qu'il la lui fendit jusqu'aux dents. Sire, le clerc mit les voisins tout courant de son action et se constitua prisonnier. Je vous l'amène donc pour que vous en fassiez ce qui vous plaira. Le voici.
Seigneur clerc, à cause de votre prouesse, vous ne devez plus songer à devenir prêtre. Mais, c'est à cause de cette même prouesse que je vous prendrai mes gages pour que vous veniez avec moi outre-mer. Je fais savoir encore une fois à tous, et que les agents du roi le sachent bien, que je ne soutiendrai jamais ces gens dans leurs mauvaises actions.
Mon fils, si la Providence s'est servie de moi pour veiller sur ton enfance et te conserver la couronne, j'ai peut-être le droit de te rappeler les devoirs d'un monarque et les obligations qu'impose le salut de ton royaume. Mais j'aime mieux faire parler devant toi la tendresse d'une mère. Tu le sais, mon fils, il ne me reste que peu de jours à vivre. Et ton départ ne me laisse que la pensée d'une séparation éternelle. Heureuse encore si je meurs avant que la renommée n'ait apporté en Occident la nouvelle de quelques grands désastres. Jusqu'à ce jour, tu as dédaigné mes conseils et mes prières. Mais si tu ne prends pitié de mes chagrins, songe au moins à tes enfants que tu abandonnes au berceau. Ils ont besoin de tes leçons et de tes secours. Que deviendront-ils en ton absence? Ne te sont-ils pas aussi chers que les chrétiens d'Orient? Ces mots que ma tendresse redit, ton départ peut les faire naître. Reste donc en Europe, où tu auras tant d'occasions de montrer les vertus d'un bon roi. Si Jésus-Christ exige que son héritage soit délivré, envoie en Orient tes trésors et tes armées. Dieu bénira une guerre entreprise pour la gloire de son nom. Mais ce Dieu qui m'entend, crois-moi, n'ordonne point que l'on accomplisse un vœu contraire au grand dessein de sa providence. Non, ce Dieu de miséricorde, qui n'a pas permis à Abraham d'achever son sacrifice, ne te permet pas d'exposer une vie à laquelle sont attachés le sort de ta famille et le salut de ton royaume.
Mes amis, vous savez que ma résolution est déjà connue de toute la chrétienté. J'ai écrit à tous les rois d'Europe que j'allais quitter mes états pour me rendre en Asie. J'ai annoncé aux chrétiens de Palestine que j'allais les secourir en personne. J'ai moi-même prêché la croisade dans mon royaume. Une foule de barons et de chevaliers ont obéi à ma voix, ont suivi mon exemple et juré de m'accompagner en Orient. Que me proposez-vous maintenant? De changer de projet hautement proclamé? De ne rien faire de ce que j'ai promis et de ce que l'Europe attend de moi? De tromper tout à la fois les espérances de l'Église des chrétiens de la Palestine et de ma fidèle noblesse? Cependant, comme vous pensez que je n'avais point ma raison quand j'ai pris la croix d'outre-mer, eh bien, je vous la rends. La voilà, cette croix qui vous cause tant d'alarme et que je n'ai prise, dites-vous, que dans un moment de délire. Seigneur évêque, voici la croix dont j'étais porteur. Je vous la remets de plein gré. Mes amis, vous ne direz pas que maintenant je suis privé de raison et de sens, que je suis malade, que je ne suis pas maître de moi. Or, aujourd'hui, je demande que l'on me rende ma croix. Que Dieu m'en soit témoin. Aucune nourriture n'entrera de ma bouche jusqu'à ce que cette croix soit de nouveau sur mon épaule. Vos reproches, vos plaintes me pénètrent d'une vive douleur. Aidez-moi, secondez-moi, et ne vous alarmez plus sur mon sort. Laissez-moi donc tenir la promesse que j'ai faite devant Dieu. Et n'oubliez pas qu'il y a des obligations qui sont sacrées pour moi et qui doivent être sacrées pour vous. C'est le serment d'un chrétien et la parole d'un roi.
Voilà, gentes dames et gentilhommes, sans nul doute, vous connaissez la fin de notre roi Saint-Louis. Lors d'une croisade héroïque, après maintes luttes intérieures, il succomba de la peste. Désormais, son âme repose près de notre Seigneur Jésus. L'œuvre de notre bon roi Saint-Louis permit au royaume de France de vivre quelques années de paix et de bonheur. Mais comme vous le savez bien, nulle paix n'est éternelle si ce n'est celle de Dieu. Oui, vraiment, nul fait n'est éternel.
Malgré les guerres et les tourments qui déchirent la France pendant près de 100 ans, Charles V réussit à t'élever, ô toi, donjon. Mais les Anglais se sont emparés de toi, ont foulé ton sol et habité tes murs, et le vainqueur d'Azincourt, Henri V, y est même en train d'y périr.
Seigneur, ma mission est une réussite complète. Nous avons enfin obtenu de la reine Isabeau de Bavière que le dauphin soit destitué de ses droits à la couronne de France. Votre autorité se renforce de jour en jour.
Hélas, je n'aurai pas le loisir de jouir longtemps de ma victoire.
Mais non, sire, reprenez courage. Si Dieu veut, votre mal aura bientôt disparu.
Warwick, mon ami, faites venir la cour dans ma chambre.
Je crois qu'à présent, toute votre cour est réunie.
Jean, mon beau frère, venez recevoir mes dernières recommandations. Soyez toujours bon et loyal envers mon beau-fils, votre neveu. De plus, ne souffrez à faire aucun traité avec votre ennemi, Charles de Valois, quoi qu'il advienne d'ailleurs. Exeter, approchez. J'ai décidé de vous confier la régence d'Angleterre. Je sais que cela vous plaisera particulièrement, car c'est une tâche ardue et qui vous prendra beaucoup de votre temps. Aussi, je vous conseille de ne jamais revenir en France. Warwick, à vous, je confie mon fils Henry. Ramenez-le en Angleterre et achevez son éducation de roi. En son nom, je vous demande de maintenir l'union avec le duc Philippe de Bourgogne. En effet, tout malentendu entre Anglais et Bourguignons entraînerait la ruine de nos projets. Ne libérez pas non plus le duc Charles d'Orléans que j'ai fait emprisonner dans la tour de Londres. Appelez pour moi Monseigneur Nathan Wald, afin que je me confesse et reçoive les derniers sacrements.
Philippe Delannoy, envoyé du duc de Bourgogne.
Si, mon maître a appris que vous étiez au pouvoir. Et faute de pouvoir se déplacer en personne, le duc m'a dépêché à votre chevet.
Que le duc en soit remercié.
C'est Seigneur, que vous a-t-il? Vite, appelez des médecins!
Messieurs, je sens le mal empirer. Je veux savoir combien de temps il me reste à vivre.
possible de prolonger vos jours. Il est vrai que votre santé est plus meilleure, mais il ne faut pas dramatiser la situation. Avec quelques remèdes, on pourra retarder l'instant fatal.
Mais non, à mon avis,
assez,
faudra...
assez ! Je vous demande une réponse précise.
Sire, soyez à votre âme, car il me semble, si ce n'est par la grâce de Dieu, qu'il est impossible que vous viviez plus de 2 ans.
Vous, mon bon maître Erdogan, restez près de moi, car il me faut maintenant me livrer à la confession.
Confiez-vous à moi, mon fils, je vous écoute.
Faites réciter les psaumes de la pénitence. Dans ma jeunesse, j'avais nourri un projet de croisade. Vous savez, oh mon Dieu, que j'ai toujours voulu, et je voudrais encore, si je vivais, réédifier Jérusalem. Ma part est avec le Seigneur Jésus.
Le roi est mort.
Vive le roi de France et d'Angleterre!
Loin des cours et des palais, la peste telle une vague engloutit les bourgs et sème la misère sur le peuple. Derrière ce spectacle affligeant, les grands aussi se meurent. Charles IX a prononcé ses derniers mots.
Massacre de la Saint-Barthélemy, qu'il a ordonné malgré lui.
Oui, personne n'aimait réellement ce pauvre roi, surtout ce duc d'Alençon qui, paraît-il, a tout fait pour l'éloigner du gouvernement du royaume.
Mais la reine Catherine n'a pas été sans influence sur ses actes. C'est elle qui lui avait demandé ce massacre.
Oui, finalement, il n'était pas vraiment coupable.
Donc, entre les soupirs, les sanglots et la rage, la voix entrecoupée a trouvé le passage. Donc, l'âpre douleur qui forçait mes vouloirs a permis que je puisse en ces termes douloir. Ah, Charles, tu es mort et malgré moi je vis. Je maudis le destin que je ne t'ai suivi. Ni l'amour de vertu, ni son âge première, qui commençait encore à goûter la lumière. Ni les crues des Français, ni les vœux maternels, ni les pleurs de sa femme au milieu des autels n'ont su fléchir la mort que sa prière jadis, n'ait tranché sans pitié le fil de sa jeunesse. C'est ce grand Dieu, ce monarque des dieux qui l'a ravi d'ici pour honorer les cieux, pour en faire une étoile en rayon chevelu tel qu'en son vivant lui-même l'avait vu. La France a son bon prince, une marâtre terre où depuis la mamelle il n'a vécu qu'en guerre, qu'au milieu des trahisons, la vue de Jésus abattre les maisons, profaner les autels, les masses sans visage et la religion n'être qu'un brigandage. Il eut le cœur si ferme et si digne d'un roi, si combattant pour Dieu, pour l'Église et la foi, qu'il mourut en sa fleur, martyr de Jésus-Christ. Bien qu'il meure en jeunesse, il a beaucoup vécu. Et sa royauté fut de peu d'âge suivi. L'âge ne sert à rien. Les gestes font la vie. Peu nous servent les ans. Les vertus nous font l'âge, non pas les années.
malheureux sans toi, vieil château de Vincennes. Pierre et Bois, malheureux, coupables de nos peines. Charles, écoute-moi. Reçois, s'il te plaît, pour durable mémoire, ces soupirs d'affliction.
Une fois notre bon roi Charles IX dépéri, normalement la vie reprit. Les rois meurent et se succèdent, le peuple, lui, ne cède. Les marchands sont réunis, tous pour la même cause, toute la journée sans pause, ils vendent à leur profit.
Alors, monsieur l'intendant, vous voici enfin sorti de votre cabinet et de vos comptes.
Je vous en prie, éminence, appelez-moi Colbert.
Ah, quelle merveille! Je ne me lasse jamais de l'admirer. Ce Leboux est vraiment un grand artiste.
C'est exactement ce que disait monsieur le duc de Condé quand il est venu en mars visiter le château.
Ah, Condé!
Oh, excusez-moi, éminence, je n'aurais peut-être pas dû en parler.
Non, ne vous excusez pas. Après tout, notre jeune roi lui a pardonné sa participation durant la Fronde. Et puis, laissons là tous ses problèmes politiques. Aujourd'hui est être un jour de fête.
Quelle joie cela a été d'apprendre que la paix avait été enfin signée avec l'Espagne et que le roi s'était marié avec l'infante Marie-Thérèse.
Une enfant charmante, quoique encore bien jeune. Elle n'a que 19 ans.
Notre roi en a tout juste 22.
Enfin, voilà une affaire qui se termine bien.
Bonjour, Majesté.
Bonjour, Monsieur l'Intendant. Bonjour, Éminence.
Cher
Monsieur Leveau. Nous avons passé la matinée à admirer vos chefs-d'œuvre. Quelle ligne, quelle perspective! J'ai surtout été émerveillé par les arcades que vous avez percées dans les murs sud.
Je vous remercie bien, mais elles ont surtout pour rôle d'agrandir le champ de vision.
Voyons, monsieur le cardinal, reprenez-vous. Vous n'auriez jamais dû dire cela.
Et ces sculptures d'Angelo, même en Italie, je n'ai vu de forme aussi pure.
Elles sont très belles, en effet. Mais elles ont été réalisées par Abraham Van Hopstal. Je suis architecte, non sculpteur.
Bien! Je crois que je vais voir où en sont les derniers préparatifs. Le roi ne va pas tarder à arriver.
Avez-vous vu de quelle façon le cardinal s'est adressé à la reine?
Hélas, que trop bien. On parle d'un mariage secret entre deux. Ce qui est sûr, c'est que le cardinal a insisté pour que dans le château, leurs deux appartements communiquent.
Parlons d'autre chose, si vous le voulez bien. Le cardinal a vraiment eu raison de faire appel à vous. Je crois que vous avez été choisi parmi 13 candidats.
Oui, mais le mérite revient aussi à mes collaborateurs, Messieurs Bergeron et Villetot, Ils m'ont beaucoup aidé, sans compter qu'ils travaillent en même temps à la réalisation du château de M. Fouquet.
Fouquet. Ah, on m'a exposé le problème. Il est même possible que je commence une enquête sur l'approvisionnement de ces fonds.
Monsieur Levaux, monsieur l'intendant, le roi arrive.
Il faut vite aller prévenir le cardinal.
C'est chose faite. D'ailleurs, voilà la cour.
Bien, ne perdons pas de temps. Monsieur Levaux, venez à mon côté avec monsieur Bergeron et monsieur Villotto. Approchez aussi, monsieur Molière.
Tout est prêt pour la représentation, éminence. Les comédiens n'attendent plus que votre signal.
De toute façon, nous avons préparé un bal juste avant, en l'honneur de notre nouvelle reine.
Voilà le carrosse.
Vive le roi! Vive la reine!
Votre majesté, c'est un grand honneur que de vous accueillir au château. Un grand honneur aussi que de vous recevoir, madame.
C'est Castillo maravilloso.
Dubois, en venant au château, nous avons pu admirer les constructions. Je ne reconnais plus le château tant il a changé.
Voici l'architecte, M. Levaux et ses associés, M. Bergeron et Villetot.
Vos majesté.
Cette percée d'arcade dans le vieux rempart, une excellente idée. On peut ainsi admirer la nouvelle cour de l'extérieur.
Et de la cour, cela permet aussi d'admirer le bois. Sans doute le plus beau décor qui soit en automne.
Ah, je vois que notre cher Molière est là pour nous accueillir.
Votre majesté, je vous remercie de votre sollicitude.
M. Molière nous présentera ce soir une nouvelle pièce de sa composition. Des merveilleuses amusantes, je crois.
Non, les précieuses ridicules.
Bien, je crois que nous ne manquerons pas de nous amuser.
Mais auparavant, mon enfant, nous avons tenu à organiser un bal en l'honneur de notre nouvelle reine.
Alors dans ce cas, ne tardons pas, que la musique commence.